et quand tu roules vers Shannon dans le coin de l'entrée de la base militaire.
Merci, mon ami. Plusieurs élus américains et d'autres élus à la Chambre américaine des représentants sont allés à contre-courant de Donald Trump pour ce qui est des démocrates. Ça, il n'y a rien de surprenant, mais de voir qu'il y a de plus en plus de républicains qui sont à contre-courant. Là, on sent qu'il se passe quelque chose. On a voté pour l'abrogation des droits de douane pour le Canada. Donc, c'est un revers pour Donald Trump qui a menacé les députés rebelles pendant le vote. C'était assez particulier à voir. On en jase avec Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine. Salut, Luc!
Ouais, bonjour!
Merci beaucoup pour le podcast de plus de 60 minutes hier dans Marceau Soir. Ça a été très apprécié. Les auditeurs ont appris à te voir sur un nouvel angle.
Ah, écoute, plaisir partagé. Quand on a du temps de glace comme ça pour parler en termes de hockey, c'est toujours intéressant. Puis avec toi, ben écoute, ça file tout seul, il n'y a pas de problème.
Ah ben, c'est un beau moment, puis il va être disponible en podcast pour les gens qui veulent le prendre. Donald Trump qui se ramasse un peu avec le vent d'en face, là, ses droits de douane, c'était une arme de destruction massive pour conquérir tous les pays. Qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est pas chose faite, parce que c'est un texte qui doit être approuvé par le Sénat par la suite.
Voilà, c'est une bonne nouvelle. Mais si vous vous dites, ben enfin, ça se replace, puis les élus reprennent le dessus sur le président, parce que normalement, les fameux tarifs, c'est ce dont on va discuter à la Cour suprême. C'est ce qu'on devrait savoir, d'ailleurs, maintenant. La Cour suprême ne s'est toujours pas prononcée, mais normalement, les tarifs, sauf situation extraordinaire, c'est le Congrès qui en décide. Donc, hier, c'est ce que des républicains ont choisi de passer comme message à Donald Trump en disant, on se range du côté des démocrates. Et ensemble, on est une majorité à vouloir mettre fin à ces fameux tarifs. Tu l'as précisé, quand je dis que c'est une bonne nouvelle, oui, dans un sens, mais ce n'est pas la nouvelle que nous attendions. Il faut maintenant que le texte de loi aille au Sénat. C'est même possible que le Sénat, démocrate et républicain, soit suffisant pour voter ensemble. Mais le président américain a un droit de veto là-dessus. Pour qu'un projet ait force de loi, il faut que les deux chambres s'entendent, puis ensuite, il faut que le président soit d'accord. Et on peut presque prédire hein, que quand le projet de loi va arriver sur le bureau de Donald Trump, il va poser son veto. Le vrai test viendrait ensuite. C'est-à-dire qu'on entre dans les technicalités. On peut casser un veto présidentiel aux États-Unis. Ce n'est pas le plus gros veto prévu par la Constitution, mais la barre, elle est très haute. Il faudrait que les deux tiers de la Chambre et les deux tiers du Sénat, séparément, votent pour renverser le veto de Donald Trump. Et c'est là où ça devient plus compliqué. Est-ce qu'on a assez de républicains en colère, déçus, ou de républicains qui tiennent à la Constitution? Est-ce qu'on en a suffisamment pour renverser le veto du président? Le vrai test est là. Donc, on peut se dire, ben enfin, il y a une forme d'opposition à Donald Trump. C'est vrai, puis on le note dans plusieurs domaines. Les gouverneurs américains, par exemple, les gouverneurs républicains ont dit à Donald Trump, « Vous n'invitez que des républicains pour notre rencontre annuelle des gouverneurs. » Alors, nous, on ne se présentera pas. Donc, il y a d'autres républicains qui se tiennent et qui passent des messages à Donald Trump. Mais pour nous, ce n'est pas encore la grande nouvelle qu'on espère, celle qui nous annoncerait que les tarifs de Donald Trump sont inconstitutionnels. Donc, la suite bientôt. En même temps, juste une parenthèse là-dessus, ce n'est pas beaucoup de républicains. Ils sont 6, je crois, à avoir voté avec les démocrates. Il faut se rappeler aussi que pour eux, on dit, ben, est-ce qu'il y en a qui vont avoir une colonne vertébrale un jour, qui vont rappeler au président quels sont les devoirs de chacun? En même temps, ils ont l'air d'avoir une colonne vertébrale, mais ils savent que ça ne fera pas plus de dommages que ça. Idéalement, pour le président, pour protéger son image, tout le monde serait derrière lui encore. Mais comme ça ne risque pas de mettre fin aux tarifs, ben, comme ils sont en élection cette année, ces républicains-là peuvent dire aux gens de leur circonscription, « Voyez, votez pour nous, j'ai parlé en votre nom. » Parce que les électeurs constatent de plus en plus que les tarifs, c'est pas une bonne idée. On le sait, c'est une taxe détournée. C'est une autre façon de taxer les Américains. C'est eux qui paient la hausse de prix. Ouais. Donc, c'est peut-être un signe d'une colonne vertébrale, tout comme c'est peut-être de l'opportunisme politique pour dire aux gens qui ont déjà voté pour nous, on est de votre bord. En même temps, en très mauvais français, ça ne scrape pas la patente pour Donald Trump.
Je trouve ça intéressant. Trump a menacé ses élus républicains qui n'étaient pas d'accord avec lui en disant qu'ils vont subir les conséquences au moment des élections, y compris des primaires. Qu'est-ce qu'il peut contre ces 6 personnes-là?
Quand on va en élection, puis qu'un parti politique, on a vécu ça avec les Clinton aussi, par exemple, chez les démocrates, c'est qu'il y a deux choses que Donald Trump peut faire. D'abord, maintenant, c'est lui qui contrôle les finances du Parti républicain. Donc, si on veut aller en campagne et faire de la politique aux États-Unis, ça coûte très cher, bien, on a besoin de l'argent de la formation politique. L'autre chose, c'est que Donald Trump pourrait, dans les circonscriptions où il y a des représentants qui sont pas de son bord ou qui ont osé manifester contre lui, il pourrait dire, OK, on va t'opposer quelqu'un. Vous vous rappelez peut-être à l'élection présidentielle qu'il y avait des primaires pour déterminer qui allait être le candidat républicain et la candidate démocrate. Il y a le même processus pour les représentants. Donc, ce ne serait pas impossible que le Parti républicain, sous Donald Trump, dise « OK, tu as osé voter contre le président, nous, on va appuyer quelqu'un d'autre. » Donc, on se range derrière cette candidature-là, puis on allonge l'argent nécessaire pour le faire passer devant le rebelle ou la rebelle qui aurait osé défier ce qui est l'équivalent du chef du parti aux États-Unis, le président des États-Unis.
Luc, je regardais les profils des gens, justement, des républicains qui ont voté avec les démocrates, et je voyais qu'un certain Don Bacon, et c'est pas la première fois, lui, qui va à l'encontre, justement, des politiques de Donald Trump. Est-ce qu'il y a assez de leadership pour en amener encore davantage avec lui?
Ça m'étonnerait beaucoup. Donc, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que habituellement, la ligne de parti aux États-Unis, autant pour les démocrates que pour les républicains, c'est moins fort que chez nous. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut donner une marge de manœuvre. Un démocrate qui se présente au Texas, par exemple, ben on va lui laisser une plateforme où on va laisser voter des mesures qui sont plus au centre ou plus conservatrices parce qu'on sait qu'il est en terrain conservateur. Un républicain qui est en Californie ou à New York, on va avoir un peu la même ouverture. Ce qui est intéressant sous Donald Trump, puis je répète, ça l'était aussi sous Clinton, c'est une autre forme de gestion très serrée, c'est que le président a tellement une emprise sur son parti que même cette marge de manœuvre-là dont on bénéficiait, Donald Trump est capable de la réduire beaucoup. Maintenant, ça craque. On le voit dans les sondages. Écoute, je relayais ce matin, il y a 3 sondages qui disent que les électeurs aujourd'hui pensent que Joe Biden faisait un meilleur travail que Donald Trump.
Aïe, aïe, aïe.
Ce sont 3 maisons de sondage respectables, crédibles, dont Rasmussen, qui habituellement a des chiffres plus favorables pour les républicains. Mm-hmm. Donc, quand tout ce beau monde-là dit « Écoute, on aimait mieux Joe Biden ou Trump », ça veut dire que ça ne va pas bien. C'est une question de perception. Ce n'est pas définitif. Hein? C'est une capture d'écran d'un moment. On est en février 2026. Mais les nouvelles pour les républicains ne sont pas bonnes. Donc, est-ce que Donald Trump va parvenir à garder sa mainmise et son contrôle jusqu'en novembre 2026, il y a beaucoup de républicains, en tout cas, qui ne sont pas revenus au bat cette fois-là, qui ont préféré prendre leur retrait de la vie politique plutôt que de continuer à solliciter des sièges à la Chambre des représentants. Il y en a quoi, 25-26 facilement, là. C'est énorme dans le contexte actuel.
Luc Laliberté, merci.
Un grand plaisir, une bonne journée.
Bye bye. Salut. L'exceptionnel Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine avec qui je jasais pendant 60 minutes hier dans le podcast de Marceau Soir. C'est un gars hyper intéressant quand il parle d'histoire.
Vraiment.
C'est le fun. Je passerai des heures et des heures à jaser avec lui. En vous rappelant que depuis l'arrivée de Donald Trump en janvier 2025, le président américain a décrété des surtaxes de 35% à l'importation sur pas mal de produits canadiens, mais par la suite, il a réduit les taux d'importation, entre autres pour ce qui est de l'énergie. Puis on a créé des petites exceptions là, pour des biens qui entrent dans le cadre de l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Et jusqu'à maintenant, Jeff, les chiffres que j'ai devant mes yeux, c'est 85% des échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis qui sont restés exemptés de droits de douane selon les termes de cet accord. Donc 85%